Il est 3h30 déjà, le temps file, c'est le début de l'heure de pointe. Est-ce qu'on a des ralentissements? Est-ce qu'on a des problèmes? Audrey?
Si vous êtes sur la capitale en ce moment, la réponse est oui. À la hauteur de Robert Bourassa, c'est déjà au ralenti. Quelques problèmes direction nord sur Robert Bourassa aussi, entre, je vous dirais, Wilfrid Hamel et la capitale. L'entrée des ponts direction sud, c'est compliqué à partir de chemin Sainte-Foy si vous êtes sur Henri IV jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Pour ce qui est de la rive sud, ça roule pour l'instant. Évidemment, vous avez des détails. 88-971-102 texto.
Particulièrement difficile de suivre ce qui se passe en Iran. Encore plus si vous vous fiez aux déclarations des politiciens.
Je m'ennuie de l'époque où on pouvait se fier aux sorties de la Maison-Blanche. Je t'ai pas aidé, puis plus particulièrement dans cette situation-là qui est très volatile.
Normalement, c'est en l'espace de 24 heures que ça devait être réglé, hein, le conflit avec l'Iran, puis finalement, ça ne s'est pas réglé. Les États-Unis devaient régler ça seuls. Finalement, ils ont demandé l'aide de l'ONU.
Mais ils n'ont besoin de personne de l'OTAN.
Finalement, parce que l'ONU n'a pas voulu ou que l'OTAN n'a pas voulu, ben ils se sont dit « Ah, oh, de toute façon, on n'avait pas besoin de vous autres. » Après ça, il est ressorti pour dire qu'il y avait une entente négociée. Et là, l'Iran est sorti pour dire « Non, il n'y a pas d'entente négociée. » Fait qu'on est rendu où avec tout ça? On va essayer de se démêler. Et comment cette guerre-là pourrait risquer d'entrer dans une période, on va appeler ça, je pense, d'étirement majeur. Toujours un plaisir d'aller rejoindre Éric Sauvé, vétéran et consultant en sécurité et en défense. Salut Éric.
Oui, salut Denis. Écoute, je veux dire tout de suite qu'on dit souvent que la vérité, c'est la première victime de la guerre.
Ouais, ça, hein?
C'est dans n'importe quelle guerre. Mais dans celle-là, c'est particulier parce que, comme vous avez mentionné, aussi bien ce qui sort de Téhéran que ce qui sort de Washington, il faut prendre tout ça avec un gros grain de sel.
On aurait sûrement une superbe conversation à savoir comment la propagande de guerre a évolué parce que moi, ça me fascine d'entendre d'anciens messages gouvernementaux de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Nos valeureuses troupes américaines ont réussi, encore une fois, à assassiner des centaines de milliers de nazis avec la petite fanfare en arrière, puis tout ça. T'as l'impression d'entendre quasiment un sketch de bye-bye, mais c'est comme ça qu'on se donnait du courage puis qu'on donnait une vision qui souvent était très incomplète de ce qui se passait sur le terrain, hein?
Bien, la propagande, ça a toujours eu lieu depuis qu'on a des conflits, depuis l'Antiquité. Je vais prêcher pour ma paroisse un peu. J'ai participé à un documentaire récemment qui est sorti sur le canal Savoir qui s'appelle « La guerre des cerveaux ». On parle de guerre cognitive où le but de l'ennemi, c'est plus de nous faire penser à quelque chose, mais c'est de faire changer notre façon de penser. On est à un niveau supérieur où on essaie de faire changer la façon de penser grâce à la désinformation, au deepfake. Puis vous l'avez vu en Iran, il y a plein de vidéos qu'on ne peut pas croire. Il y a des frappes à Dubaï, des missiles qui tombent. Finalement, c'est complètement de l'intelligence artificielle. Fait que c'est vraiment difficile de faire la différence entre le vrai et le faux.
Concrètement, Éric, on est rendu où dans le conflit avec l'Iran?
Concrètement, si je prends un point de vue un peu reculé, là, depuis le début, l'Iran a quand même mangé une sérieuse raclée, dans le sens que leurs missiles balistiques ont été détruits à un taux peut-être de 80-90%. Donc, leur capacité de frapper les autres pays du Golfe est diminuée. Okay. Ils sont passés de centaines de missiles par jour à une vingtaine qu'ils lancent à l'extérieur. Il y a encore beaucoup de drones, mais ça a diminué du 2/3. Là, qu'est-ce qui reste? C'est le détroit d'Ormuz. C'est la carte maîtresse que l'Iran a. Et l'Amérique ne peut pas se retirer en déclarant victoire tant que le détroit est fermé, puisque 20% du pétrole et des cargos mondiaux passent par là.
Mais en poursuivant des frappes stratégiques, on n'est pas capable de reprendre possession du détroit stratégiquement parlant. Pourquoi c'est plus complexe?
Le détroit, c'est pratiquement une zone d'abattage. Dans le militaire, une zone d'abattage, c'est là que tu concentres toutes tes armes.
Mm-hmm.
Fait que le détroit fait 39 km de large, les voies sont très, très minces. Très peu profond aussi. Il y a peut-être des mines, ce qui serait un gros problème à déminer. Il y a des missiles à partir de la côte, il y a des drones, il y a des bateaux vedettes. Il n'y a personne qui veut s'engager là. Parce que le temps de réaction, quand tu étais peut-être à 20 km de la côte, si tu tiens au milieu, là, est de quelques secondes. Et si l'Iran frappe, ils ne vont pas envoyer un missile à la fois. Ils vont en envoyer 10 avec des bateaux, avec des drones, puis peut-être des mines. Donc, il n'y a personne qui veut se lancer dans ce détroit-là pour l'instant. Il n'est pas techniquement fermé. C'est juste que c'est une zone d'abattage que l'Iran pourrait nous tirer dessus n'importe quand.
Est-ce qu'on se dirige vers une intervention terrestre? Puis à ce moment-là, j'imagine que dès qu'on commence ce processus-là, c'est comme le signal qu'on n'est pas sorti de la guerre, mais pas pantoute, au contraire.
C'est une escalade majeure, puis la décision, elle revient exclusivement au président Trump. Qu'est-ce qu'il va décider? C'est vraiment difficile avec lui de le savoir, parce qu'il change d'idée comme il change de chemise un peu.
Oui.
Mais il y a, les possibilités en ce moment sont là, dans le sens qu'il y a deux détachements de Marines qui sont partis, qui se rapprochent de la région. Puis là, ce qu'on vient d'apprendre de façon officielle, c'est que le 82e Airborne, qui est une unité mythique, est envoyé aussi.
Okay.
Les Marines, leur force, c'est une force expéditionnaire amphibie, peuvent débarquer sur des îles avec des barges. Le 82e Airborne, c'est aéroporté, beaucoup plus léger. Eux peuvent éviter le détroit d'Hormuz, aller prendre peut-être l'île de Kerg où 90 % du pétrole iranien part, ou prendre des îles dans le détroit pour tenter de sécuriser. Cependant, prendre la place, c'est une chose, mais la maintenir après ça, quand on sait que toutes les armes de l'Iran vont se retourner vers ces îles-là, je ne dis pas que c'est une mission suicide, mais ça va être extrêmement difficile de maintenir la position par la suite.
C'est quoi la position de Trump actuellement? Puis est-ce qu'on a déjà commencé une guerre d'usure? Parce que, évidemment, on est tous dans les estrades, mais l'impression qu'on a, c'est que Donald Trump voulait faire à l'Iran ce qu'il avait réussi à faire au Venezuela, régler ça en 48 heures.
Oui, puis tous les experts vous diront que ça n'allait pas fonctionner de toute façon. Mais là, on se demande justement, c'est qui les adultes dans la salle quand c'est décidé?
Ouais.
Moi, j'ai travaillé 3 ans avec le renseignement américain, la CIA, la DIA, qui est la Defense Intelligence Agency, le département d'État. Ces gens-là, c'est des gens brillants qui connaissent l'Iran.
Mm-hmm.
La première chose que tu leur dis, qu'est-ce qui arrive si on attaque l'Iran? Ils vont dire, ils vont frapper les pays du Golfe, ils vont fermer le détroit. Là, le détroit est fermé. On pensait à la Maison-Blanche qu'on allait faire un Venezuela 2.0, mais c'est une révolution qui a eu lieu de 47 ans, des gens absolutistes. Il y a une mentalité de martyr chez les chiites de cette région-là. Donc, eux, ils s'en prennent au grand Satan. Puis s'il faut qu'ils aillent voir les 72 vierges au paradis pour remporter la victoire,
ils vont le faire. Ouais.
Ils vont le faire, exactement. Fait qu'on fait face à ça. Si on envoie des troupes sur le terrain en pensant que c'est le coup de grâce, pour eux, c'est le piège ultime de dire « on a finalement des Américains à portée de nos armes et on va en découdre avec eux.
Mm-hmm. » Puis c'est à partir de ce moment-là que ça peut s'éterniser, justement, parce que c'est pas parce que tu réussis à prendre position dans le détroit que tu vas nécessairement le garder. Puis on le sait, là, dans ces guerres de tranchées-là, historiquement, ça peut perdurer et perdurer pendant qu'il y a du monde qui meurt d'un bord puis de l'autre, là.
C'est une escalade majeure. La seule manière logique de rouvrir le détroit, c'est de faire des négociations. En ce moment, on sait qu'il y a des navires qui passent. Les navires ne passent pas par le chemin officiel. Ils longent la côte iranienne pour être inspectés et pour aller payer leur droit d'entrée aussi, qui s'élève environ à 2 millions en ce moment. Fait que 2 millions de dollars pour passer. Les seuls bateaux qui ne pourront pas passer pendant longtemps, c'est les bateaux américains et les bateaux israéliens. Mais éventuellement, ils vont devoir aussi peut-être négocier... Ça ne sera pas officiel, on ne le saura pas, parce que jamais l'Amérique va dire qu'ils ont payé,
ouais.
Mais ils vont annoncer officiellement que le détroit va être ouvert éventuellement.
Éric, est-ce qu'il y a moyen de connaître l'état réel des négociations? Parce que là, Donald Trump, il est allé de quelques coups de gueule, puis à un moment donné, il y avait une entente. L'Iran est sorti pour dire que c'était pas ça pantoute. Après ça, il est sorti pour dire « Ouais, mais ils sont étranges, puis ils sont bizarres, les gens qui négocient. » Comment ça se passe au niveau de la négociation actuellement entre l'Iran et les États-Unis?
Avant la guerre, c'était le Qatar qui était le médiateur officiel avec l'Iran.
Okay.
Mais le Qatar a été frappé durement, ne veulent plus se mettre là-dedans. Là, on sait que le Pakistan s'en est mêlé. La Maison-Blanche a envoyé 15 points au Pakistan. Pakistan parle avec l'Iran, donc c'est par personne interposée. Mais entendons-nous, les négociateurs de Donald Trump, c'est Jared Kushner, qui est un homme d'affaires qui est son gendre, puis Stephen Witkoff, qui est un homme d'affaires aussi, qui est un promoteur immobilier à New York. Ce n'est pas des gens qui ont une expérience de terrain.
C'est pas des stratèges militaires, Éric, là.
Non, certainement pas. Mais ce n'est pas non plus des stratèges politiques.
Uh-huh.
Puis ce qu'on entend à travers les branches aussi, c'est que sous le couvert de la négociation, ils amènent des contrats au fils de Trump et à la famille Trump en même temps. C'est de l'amateurisme. Mm. En fait, un des problèmes pour lesquels on est rentré en guerre, c'est que quand l'Iran a proposé à ces deux négociateurs-là de faire des concessions. Ils n'ont même pas compris l'offre qui leur était faite. Ils sont revenus à Trump en disant qu'ils ne veulent pas bouger. Mm. Et Trump a décidé de frapper, mais l'Iran l'a prouvé qu'il avait offert quelques négociations. Fait que l'Iran s'est senti trahi, donc le lien de confiance est brisé. Ça, c'est difficile de rentrer en négociation quand tu n'as pas confiance aux gens de l'autre côté de la table.
C'est impossible que Donald Trump arrive une bonne journée puis dise « Hey, finalement, on s'est trompé, on retire nos troupes, on fait comme si c'était pas arrivé. Là. Tu peux pas remettre le dentifrice dans le tube. »
Bien, en fait, ça pourrait très bien qu'il dise une partie de ta phrase, c'est-à-dire « on se retire », mais c'est sûr qu'il va dire qu'ils ont gagné.
Ouais.
Depuis le début... Non, mais c'est vrai. Depuis le début, il dit « on va gagner, on t'arrête de gagner, on a gagné ». Il va dire « on a gagné mm. ». Puis il y a certains points sur lesquels il pourrait miser. Il pourrait dire « la capacité nucléaire est presque anéantie, ouais. capacité balistique est presque anéantie. L'Iran n'arrive plus à faire du trouble. Il pourrait s'en sortir. » Bon, toi et moi, on sait que le fait que le détroit d'Hormuz soit fermé, c'est le gros problème. Si ça ouvre, puis peut-être à coups de millions américains, il pourrait déclarer victoire, puis dans les livres d'histoire, ben, on pourra réévaluer si c'est vraiment une victoire ou non.
À quoi il faut s'attendre réalistement dans les prochaines semaines?
Moi, j'ai une certaine crainte qui envoie des troupes sur le terrain. Les Marines, le Airborne, si c'est le cas, on pourrait jaser de ce conflit-là encore longtemps. Si jamais c'est juste une monnaie, un peu une menace pour faire peur, et puis qu'il arrive à négocier une réouverture, ça pourrait se terminer plus rapidement qu'on pense.
Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation comme on voit avec la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on voulait faire un coup vite, mais finalement ça s'éternise pendant des années et des années? Est-ce que l'opinion populaire américaine laisserait aller ça aussi longtemps? Pas certain, hein?
Je pense pas que ça pourrait durer aussi longtemps. Mais évidemment, on sait quand une guerre commence, on sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. Sauf que l'attention de Trump, c'est l'attention d'un enfant de 5 ans. Et il regarde aussi beaucoup le cours du pétrole. Il regarde les élections de mi-novembre. Il sent que c'est extrêmement impopulaire. Il cherche par tous les moyens une sortie honorable. Mais en ce moment, c'est l'Iran qui ne veut plus que les Américains quittent.
Ben oui.
Au départ, l'Iran, comme j'ai dit, a mangé une raclée. Mais là, ils se disent... Moi, j'en ai encore à des coudes. Je peux contrôler une partie de l'économie mondiale. Je veux aussi déclarer victoire de mon côté. Fait que l'Iran ne va pas laisser les États-Unis partir comme ça. On est pris dans un engrenage, justement.
Éric, c'est une question qui revient tellement souvent sur notre texto, puis on se la pose aussi. À force de prendre des décisions comme celle-là, il n'y a pas un risque à un moment donné que les pays que Trump attaque finissent par se venger puis attaquer directement les États-Unis et non pas juste des bases américaines à l'étranger?
C'est que l'Iran n'a pas les capacités, premièrement, balistiques pour se rendre jusqu'à là. Là, on a eu par contre une surprise. On savait que l'Iran avait des missiles qui se rendaient jusqu'à 2000 km, ce qui veut dire la Turquie environ aux environs d'Istanbul.
OK.
Récemment, l'Iran a envoyé deux missiles en direction d'une base britannique dans l'océan Indien qui est à 4000 km.
Wow.
Ça veut dire qu'il y avait le double de la puissance qu'on pensait. Puis là, 4000 km, ça, si on regarde de l'Europe de l'Ouest, ça va jusqu'à Rome, ça va jusqu'à des pays d'Europe de l'Ouest. Ça, c'est une des grosses craintes qu'on a eues. Maintenant, si l'Iran voulait frapper des intérêts américains, ça serait peut-être par du terrorisme. Soit en Europe, soit au niveau américain. Mais en termes balistiques ou en termes de drones, ils n'ont pas la capacité de se rendre jusqu'à nous.
Éric Sauvé, c'est hyper intéressant. Dès que ça bouge, on s'en reparle.
Merci, à la prochaine.
Hey, merci, bye-bye. Éric Sauvé, qui est vétéran et consultant en sécurité et défense, pour nous expliquer l'état des choses actuellement avec un conflit que Donald Trump a déclenché seul, où il a demandé l'aide de ses alliés.
Non, il n'y a pas besoin.
Et moi, j'ai l'impression que c'est le principe du sable mouvant. Puis historiquement, plus tu t'enfonces, plus tu veux t'en sortir. Mais les sables mouvants, c'est comme ça. Hein? Plus tu bouges, plus tu t'enfonces vite. Puis moi, à partir du moment où tu envoies des troupes sur le terrain et qu'il y a des boîtes qui commencent à revenir au pays, puis qu'il y a des mères, puis qu'il y a des pères qui pleurent, l'opinion publique peut changer très, très, très rapidement. Historiquement, on l'a vu, entre autres, pendant la guerre du Vietnam. Puis la guerre du Vietnam, il y avait ça de particulier, c'est qu'on avait promis d'aider une partie de la population puis une partie des groupes armés. Mais à partir du moment où on les abandonnait, ben on les laissait mourir sous les feux de l'ennemi, là, carrément. On s'était tellement mis dans le trouble. Il y a une série fascinante sur Netflix pour les gens qui veulent en apprendre plus. Mais il ne faut pas que l'Iran devienne pour les États-Unis ce que l'Ukraine est devenue pour la Russie. La Russie contrôle son peuple avec des guns sa tempe, puis empoisonne l'opposition ou ils font croupir dans des prisons de Sibérie. Aux États-Unis, on n'est pas là. Ça va brasser en tabarnouche si jamais il faut que ça s'éternise puis qu'il y ait des soldats qui reviennent dans des cercueils. Mais ouais. Merci à Eric. Il est vraiment... je trouve qu'il est très vulgarisateur, très intéressant, très right to the point. Puis les conflits internationaux, on va se le dire, là, c'est pas toujours évident de suivre ça non plus.
Non, puis on dirait que tant que ça nous... touche pas directement. T'sais, là, on le voit beaucoup avec le prix du pétrole. T'sais, mine de rien, y a des gens qui sont en train de prendre des décisions pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. T'sais, ça touche des éléments qui sont plus tangibles dans nos vies, mais on dirait que tant qu'on se sent pas menacé ou qu'il n'y a pas d'impact direct, ben ça reste complexe, là. Ça reste des grands enjeux, puis on a déjà notre quotidien à faire.
Puis je suis en train de regarder les textos, il y a beaucoup de gens inquiets, puis je trouve ça tout à fait normal aussi, mais quand vous avez des questions à poser à Eric, profitez-en pendant qu'il est là, on va regarder, on va ratisser, puis on va les poser, vos questions. Il est 4h moins quart, 16h45, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour, il neige de plus en plus, finalement, on va peut-être avoir un petit problème pendant l'heure de pointe.
Là, quand tu fais ta météo, va-tu falloir que tu dises « mensonge » comme Audrey?
Peut-être. Je fais de mon mieux. C'était beau ce midi, là, mais là, c'est reparti de plus belle. On se tient au courant, évidemment. 418-971-1021.